Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté.
Voilà. On va continuer notre exploration de l'Esprit Saint. Avant de commencer ici la prière, je disais on va l'invoquer, et ça me faisait penser à Harry Potter. Dans Harry Potter, il y a quelqu'un dont on ne doit pas prononcer le nom. Ici, avec l'Esprit Saint, n'hésitez pas à le prononcer le plus possible. C'est ça qu'il y a bien. Bon, donc, ce qu'on avait dit... Dans la première partie, où on a tout d'abord resitué l'Esprit Saint dans la Trinité, et puis on avait dit que c'était dans l'homme trinitaire, esprit, âme, corps. L'Esprit Saint, c'est celui qui va venir s'adresser à notre esprit, au nous, donc celui qui est aussi d'origine divine et qui est déposé en nous. Et puis, on avait parlé donc... L'Esprit Saint, c'était celui qui allait pouvoir nous conduire sur notre chemin de sainteté. Et on avait dit aussi que la sainteté, ce n'était pas quelque chose qui venait spontanément. Il y avait trois raisons. La première, c'est que la tâche de devenir saint, c'est au-dessus de nos forces. Si on ne compte que sur nos propres forces, oubliez ces peines perdues, vous n'y arriverez pas. Que deuxièmement, il y a autant de chemins de sainteté qu'il n'y a de personnes, et que Dieu seul est celui qui connaît notre chemin de sainteté. Et le troisième point, c'est que soyons fidèles dans les petites choses, et au fur et à mesure, l'Esprit va nous donner des choses de plus en plus grandes et de plus en plus pénétrantes, je vais dire, en nous. Alors, on peut se poser la question maintenant, mais... comment favoriser l'éclosion des inspirations de l'Esprit? Alors, nous avons tous, nous sommes ici, nous avons tous été baptisés. Et avec ce sacrement, on nous a dit à ce moment-là que nous avons été unis au Christ. Et le fruit de ce sacrement, normalement, est la venue dans notre vie de ce qu'on appelle aussi les dons du Saint-Esprit. Je vous le rappelle, c'était la sagesse, l'intelligence, la science, le conseil, la force, la piété et la crainte de Dieu. Ces sept dons, ce ne sont que des variations basées sur toujours la même chose, l'amour. Ceux-ci ont pour but de mettre notre âme, finalement, dans les dispositions pour recevoir les inspirations divines. Alors, qu'est-ce qui permet concrètement la manifestation en nous des inspirations, je veux dire de la grâce, les inspirations divines? Alors la première chose, c'est de pratiquer la louange et la gratitude. Posons-nous la question, combien de fois par jour est-ce que nous remercions Dieu pour les grâces qu'il nous a données, pour une rencontre qui s'est bien passée, pour un voyage qui s'est déroulé sans encombre, pour un repas réussi, pour une liturgie priante qui nous a nourris, pour un problème qui nous empoisonnait la vie et qui s'est résolu? Combien de fois aussi est-ce que nous lui demandons de nous aider? Quand nous disons merci pour les grâces données ou les inspirations reçues, il va nous en donner davantage. Est-ce que vous est jamais arrivé aussi de choisir une solution plutôt qu'une autre, sans vraiment savoir, au fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je prends tel chemin plutôt qu'un autre? Ou bien vous êtes devant un choix difficile entre plusieurs solutions, et puis tout d'une fois, il n'y en a plus qu'une seule qui reste. Et les autres disparaissent, parfois comme par enchantement. Mais le merci et justement et la louange font petit à petit purifier notre cœur et le disposer pour tout recevoir dans la paix. Il y a un psaume qui traduit bien ça, qui dit « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » La deuxième chose pour favoriser l'éclosion des inspirations de l'esprit, c'est de les désirer et de les demander. C'est important qu'on désire ces grâces et ces inspirations, et qu'aussi on les demande, qu'on n'hésite pas à les demander. Le mieux, c'est bien sûr dans une prière. D'ailleurs, le Christ avait dit « Demandez et l'on vous donnera ». Tout peut être demandé à Dieu. Quand nous devons prendre une décision, dans des circonstances de notre vie, face à des choix importants, quand nous sommes un peu perdus ou découragés, n'hésitons pas. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à toi de me secourir. Lorsque c'est demandé en confiance et en conscience, il serait vraiment étonnant que Dieu ne réponde pas. Mais ici, je vais quand même préciser, si vous demandez pour gagner au loto, pour pouvoir vous payer une grosse voiture et frimer devant les autres, il y a peu de chances quand même que Dieu vous demande. Autrement dit, les demandes doivent servir à progresser sur le chemin spirituel, pas à vous faire gonfler, à gonfler votre orgueil quoi, ou votre richesse. Bon. Troisième chose pour favoriser l'éclosion des inspirations, c'est se décider à ne rien refuser à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut être déterminé à obéir, à suivre les inspirations de Dieu en toutes circonstances et en toutes choses, petites ou grandes. Et ce sera sans doute difficile au début, parce qu'il y en a un qui va réagir, c'est notre petit moi. Parfois, ce sera impossible aussi, à cause de notre histoire personnelle, ou bien des pressions extérieures, ou bien par angoisse, par peur, par faiblesse, ou par facilité. Mais gardons la détermination. Ce qui doit nous conduire toujours, c'est l'amour et non la peur. Si c'est trop dur aujourd'hui, n'entrons pas dans la culpabilité, mais entrons dans le repentir. Seigneur, aujourd'hui je ne peux pas, mais pardonne-moi et viens à mon aide. Quatrième point, c'est de pratiquer l'obéissance filiale et confiante. Obéir, c'est la même racine que écouter. Chaque fidélité à la grâce va attirer des grâces nouvelles, plus abondantes. Quoi ? La quatrième, c'est pratiquer l'obéissance filiale et confiante. Il y a des multiples expressions de la volonté de Dieu qui nous sont connues et qui nous ont été données à tous par les paroles du Christ, par les Écritures, parfois par l'exigence de notre vocation, ou même de notre vie professionnelle. Heureux plutôt, il y a dans la Bible aussi, Luc nous disait, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent et qui la mettent en pratique. » Ce sont des demandes générales, c'est vrai. Mais si déjà nous ne répondons pas favorablement à celles-ci, il nous sera difficile à des inspirations plus personnelles. Obéir à Dieu passe parfois par une obéissance aux hommes. Si nous avons difficile d'obéir aux hommes, il en sera de même dans notre obéissance à Dieu. Dans un cas comme dans l'autre, cela nous demande de renoncer à notre volonté propre, à nos idées, à nos attachements. Est-ce que la demande va dans un accroissement de l'amour ou dans une restriction ? C'est toujours la question que vous pouvez vous poser. Est-ce que ce qu'on demande de faire va dans un accroissement de l'amour ou bien est-ce que c'est une diminution qui va à l'inverse même? La base de l'obéissance est bien sûr la confiance. Ce qui m'arrive aujourd'hui va à l'encontre parfois de mes espérances, de ce que je voulais, de ce que j'attendais. Merci Seigneur, je te fais confiance. La cinquième point, c'est de pratiquer l'abandon. Pratiquer l'abandon, ça veut dire obéir aux événements. Si Dieu nous voit dociles aux événements qui nous arrivent, capables de consentir paisiblement et amoureusement à ce que les événements de la vie nous imposent, dans un esprit de confiance filiale et d'abandon à sa volonté, nul doute qu'il sera là pour nous aider. Mais si nous nous rebellons constamment pour les désagréments, pour tout ce qui ne passe pas comme nous le voudrions, il sera difficile, voire impossible pour l'Esprit Saint d'agir en nous. L'exemple de cette attitude, c'est celui de la petite Thérèse. Elle disait « Je choisis tout », c'est-à-dire « Je décide de choisir ce que je n'ai pas choisi ». Et Thérèse d'Avila disait « Coordonnez-vous qu'il soit fait de moi ». Extérieurement, la situation restera toujours la même, mais intérieurement, cela change tout. Ce consentement par l'amour et la confiance va nous rendre libres, actifs et non plus passifs. Et cela va permettre à Dieu de tirer un bien de tout ce qui m'arrive, que cela semble à mon âme bon ou mauvais. Sixièmement, c'est de pratiquer le détachement. Ça veut dire s'efforcer de ne tenir à rien, ni matériellement, ni affectivement, ni même spirituellement. Ne pas s'attacher à des idées, à des conceptions, à des manières de faire. Alors c'est pas devenir je m'en foutiste ou indifférent à tout, mais c'est conserver notre cœur dans une attitude de détachement, de réserve intérieure, qui fait que si telle chose ou telle habitude, telle relation, tel projet personnel disparaissent, on n'en fait pas un drame. Sinon, nos progrès spirituels seront entravés. La vraie liberté consiste à ne se lier à rien. Plus notre cœur sera dans le détachement et plus l'action de l'Esprit-Saint sera facilitée. Parfois, nous croyons agir avec sagesse et nous nous y attachons souvent de façon inconsciente car notre sagesse est assimilée souvent à notre propre volonté. Et rappelez-vous les paroles de saint Paul aux Colossiens, « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Septièmement, c'est pratiquer le silence et la paix. Comme nous l'avons vu par le témoignage de Motovilov, l'Esprit de Dieu est un esprit de paix, qui agit dans la douceur, jamais dans le trouble ou l'agitation. Les inspirations de l'esprit ne peuvent émerger à notre conscience spirituelle que s'il y a dans celle-ci une zone de calme, une zone de silence, une zone de paix. Chercher à garder notre cœur dans la paix en toutes circonstances est très important. Alors je sais, ce n'est pas évident, mais à force d'approfondir l'humilité, l'abandon, l'espérance en Dieu, d'accepter nos pauvretés et de garder la confiance inébranlable en la miséricorde et l'amour de Dieu, nous y arriverons de plus en plus souvent. Dans les moments difficiles, arriver à conserver cette paix est très bénéfique, car c'est justement le fait de conserver cette paix qui nous donnera le maximum de chances de réagir à cette situation, non pas de manière humaine, inquiète et précipitée, mais dans l'attention à ce que l'Esprit Saint pourra nous suggérer. Saint Jean de la Croix écrivait « Ayez soin de conserver votre cœur dans la paix, qu'aucun événement de ce monde ne le trouble, quand bien même tout ici-bas s'écoulerait et que tous les événements seraient opposés, il serait inutile de nous troubler. » car ce trouble nous porterait plus de dommages que de profits. Alors cette attitude, elle s'obtient de plus en plus par une pratique du silence. Un silence qui n'est pas un vide, qui n'est pas une absence de bruit, mais qui est paix, attention à la présence de Dieu et attention à l'autre, attention confiante, espérance en Dieu. L'excès de bruit, ce tourbillon incessant de nos pensées, d'imagination, de paroles écoutées ou dites, dans lequel nous nous laissons parfois prendre et qui ne fait qu'alimenter nos préoccupations, nos peurs, nos insatisfactions, laisse évidemment peu de chance à l'Esprit Saint de pouvoir s'exprimer. Le silence est une attitude générale d'intériorité qui permet de préserver dans notre cœur une cellule, une niche intérieure où nous sommes en présence de Dieu et pouvons converser avec lui. Puis le huitième point, c'est de persévérer fidèlement dans l'oraison. L'oraison, c'est une pratique de la prière personnelle silencieuse que le Christ lui-même nous recommande. Quand tu veux prier, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le fait de pratiquer régulièrement l'oraison nous permettra d'acquérir progressivement toutes les attitudes dont nous venons de parler et d'ainsi faciliter les manifestations et les inspirations de l'Esprit Saint. Neuvième point, c'est examiner les mouvements de notre cœur. Où vont naître les manifestations de l'Esprit, les inspirations de l'Esprit, les manifestations de la grâce? Ça ne va pas être dans notre tête, mais au plus profond de notre cœur, là où repose le nous. Pour les reconnaître, il faut être attentif à ce qui se passe en lui, aux mouvements que nous ressentons, et apprendre à discerner d'où viennent ces mouvements. Est-ce de notre nature, mû par la crainte, par le ressentiment, par la colère, par l'agressivité, par le besoin d'être remarqué, d'être admiré des autres, par nos sens? Souvent, ils proviennent alors de nos blessures. Est-ce aussi du démon? Du démon qui vient nous tenter sous différentes formes, nous faire accomplir des choses qui paraissent bonnes, mais qui nous éloignent de Dieu, et qui sont négatives et suscitent troubles et tristesse dans notre vie spirituelle? Ou bien encore, est-ce de l'influence de l'Esprit Saint? Les mouvements de notre cœur, dans ce cas, vont laisser en nous une impression de joie et une impression de paix. Alors il ne s'agit pas de tomber dans une introspection psychologique, je vais dire continue, inquiète et forcée, qui nous centre sur nous-mêmes, ou faire de nous le jouet du va-et-vient de nos émotions et pensées, et ainsi nous éloigner de l'écoute de l'Esprit. Et enfin, le dixième point, c'est de pratiquer l'ouverture du cœur envers un père spirituel, un père ou une mère spirituelle. L'aide d'un père ou d'une mère spirituelle est parfois nécessaire pour discerner justement d'où vient l'inspiration. Et cette ouverture à un père ou une mère spirituelle va nous placer dans une attitude d'humilité et de confiance dans l'autre, et témoigne de notre désir de voir clair en nous pour accomplir la volonté de Dieu, et voir si ce que l'on pense est vraiment sincère. La confession, ou le sacrement de pardon, est aussi une voie de purification du cœur, et c'est une voie à ne pas négliger. Alors, on peut se poser aussi la question, mais maintenant qu'on a vu qu'est-ce qui allait faciliter les inspirations de l'Esprit-Saint, comment reconnaît-on qu'une inspiration, finalement, est de Dieu ou de l'Esprit? Comment reconnaître les inspirations qui ont Dieu pour origine? Comment identifier ce qui vient de l'Esprit et ne pas les confondre avec ce qui peut venir de notre imagination, d'autosuggestion ou ce qui est tentation du démon? Il n'y a pas de recette, ou de règles absolues et automatiques. Mais il existe certains critères qui permettent de s'orienter et d'aller de l'avant. Alors parfois on va tâtonner, mais on va être rectifié. Mais petit à petit, la collaboration entre nous et la grâce divine va prendre forme. Pour reconnaître les inspirations divines, il nous faudra d'abord développer en nous une sorte, appelons ça, d'ouïe spirituelle. C'est comme une capacité à reconnaître parmi toutes les petites voix multiples et discordantes qui se font entendre à l'intérieur de notre cœur, la voix unique et reconnaissable de Jésus. C'est un timbre propre et unique pour chacun d'entre nous, en fonction de là où nous sommes. Rappelez-vous les paroles de l'Évangile du bon pasteur. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent pas un étranger, elles le fuiront au contraire parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Plus nous allons fréquenter régulièrement la parole de Dieu, et plus notre ouïe spirituelle va s'aiguiser, va s'affiner, va se développer. Alors, quels sont les critères de discernement qui permettent de dire qu'une inspiration vient de Dieu? Alors, on peut dire qu'il y a deux sortes de critères. Il y a les critères externes et les critères internes. Les critères externes, d'abord. Le premier, c'est que Dieu ne se contredit pas. Les inspirations de l'Esprit ne vont pas contredire la volonté divine telle qu'elle s'exprime dans les évangiles, ou dans l'enseignement de l'Église, ou pour ma vocation propre. Il y a aussi une cohérence avec l'Écriture sainte, je vais dire, et l'enseignement de l'Église, avec un grand E, pas nécessairement les institutions. L'inspiration doit être cohérente avec ce que nous enseigne la parole de Dieu. Une actualisation des textes est nécessaire et les inspirations ne vont pas dans une ligne qui contredit les lois divines. Souvent, les inspirations de l'Esprit-Saint vont nous demander un esprit d'obéissance. Et c'est ici que le recours à un père ou à une mère spirituelle est le plus utile. Si l'inspiration, par exemple, vous suggère de voler votre voisin parce que vous en avez fort envie et parce que ce serait bien pour votre sécurité, dites-vous bien que ça vient très rarement, pour ne pas dire jamais, de l'Esprit-Saint. Cohérence aussi, je vous disais, avec ma vocation propre. C'est quelque chose que l'on oublie régulièrement. Nous avons tous une situation particulière. Nous sommes mariés, ou nous sommes parents, nous sommes prêtres, nous sommes consacrés, et une situation aussi dans le monde, dans notre activité professionnelle. Ça va nous imposer un mode de vie qui implique des devoirs. De ces situations découle ainsi un ensemble d'exigences implicites qui font partie de la volonté de Dieu sur moi. Lorsque nous sommes parents, le premier devoir, c'est d'éduquer nos enfants. Si l'inspiration va à l'encontre, c'est qu'il y a un problème. Un deuxième exemple, si l'inspiration me demande de délaisser mon travail ou ma famille pour m'adonner à des temps de prière solitaire ou de méditation ou de retraite, voire même de liturgie qui affecte négativement les relations familiales ou professionnelles, il y a peut-être un problème. Est-ce que ce n'est pas une fuite, parce que mon couple bat de l'aile, parce que je me sens non apprécié dans mon travail? Ici aussi, la prière individuelle, dans le calme ou le recours au Père ou à la Mère spirituelle, peut discerner où est l'essentiel. Et deuxièmement, ce sont alors les critères internes. Le premier critère, c'est qu'on juge l'arbre à ses fruits. Ce que disait le Christ aux pharisiens qui doutaient de lui parce qu'il avait chassé des démons, une inspiration de l'Esprit-Saint, si elle est suivie, sera féconde et portera des fruits. La paix intérieure et extérieure, la joie, l'amour, l'humilité, un soulagement, une quiétude, la gratitude envers Dieu, ce sont tous les fruits qui vont jaillir. Souvenez-vous d'ailleurs ce que je vous lisais ce matin, de ce que quand Séraphin Tsarov demandait à son disciple, « Qu'est-ce que tu ressens ?» Et il parlait de la chaleur, de la douceur, de la bonne odeur du Saint-Esprit, de la paix aussi qu'il avait, de la joie qu'il avait dans son cœur. Si l'inspiration vient du démon, elle restera stérile et les fruits seront négatifs. Ce sera plutôt l'amertume, la tristesse, l'orgueil, l'agitation, le remords. Ce critère est important, mais son inconvénient, c'est que ce n'est qu'a posteriori, quand la décision a été prise, qu'on peut le voir. Mais cependant, il reste utile, car il nous permet de nous former l'expérience, de se former l'expérience, d'affiner notre discernement et de corriger ou d'ajuster notre attitude. Le deuxième critère interne, justement, c'est la formation que nous donne l'expérience. Nous parlions précédemment, je vous parlais de acquérir l'ouïe spirituelle. C'est un don de Dieu aussi, mais qui va s'affermir par l'expérience. En voyant les fruits consécutifs aux décisions prises à la suite d'une inspiration, nous nous rendrons compte si cette idée venait de Dieu ou de notre psychisme ou du démon. Notre orgueil en prendra peut-être un coup, parce que reconnaître que nous nous sommes trompés n'est pas agréable pour notre ego. L'apprentissage de la vie spirituelle se fait par des succès et des erreurs, des tâtonnements. Les voies du Seigneur sont impénétrables, et parfois passer par un échec peut s'avérer bénéfique si nous en tirons les leçons. Si nous accueillons avec humilité ce qui nous arrive et allons de l'avant sans nous décourager, en gardant confiance que tout est grâce, que nous sommes aimés à l'infini. Tomber et se relever, c'est la caractéristique d'une vraie vie spirituelle. L'état intérieur, paisible, humble, joyeux, ou bien triste, tendu, troublé, en colère, permet d'apprendre à mieux reconnaître ce qui vient de Dieu ou ce qui vient du démon ou de nous-mêmes, de notre ego. Ensuite, il y a le discernement des esprits. Il y a une loi générale qui a été établie par les témoignages des saints et la tradition de l'Église. Comme je vous disais, l'Esprit de Dieu apporte joie, paix, tranquillité d'esprit, douceur, simplicité, lumière. Et au contraire, ce qui vient de l'esprit du mal entraîne tristesse, trouble, agitation, inquiétude, confusion, ténèbres. Le démon est incapable de produire de manière durable la joie et la paix. La tristesse peut parfois venir sur une inspiration de l'esprit, mais si elle conduit au repentir, elle va rapidement se transformer en joie. La paix dans l'âme est avec certitude le fruit de l'esprit. En pratique, l'inspiration de l'esprit est douce et pacifique, mais la résistance à cette inspiration peut semer des troubles et des peurs en nous. Mettre en pratique ce que l'esprit nous suggère va générer des questions. Pourquoi moi? Comment vais-je faire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Je ne suis pas capable. Ainsi, pour moi, personnellement, lorsque l'évêque m'a demandé d'être prêtre de la paroisse, je suis passé par toutes ces questions. Et je peux vous dire que je résistais. Et la nuit avant de donner ma réponse avait été assez effroyable. Mais au matin, apaisé, quand j'avais dit oui intérieurement, mon âme était en paix et la joie chantait dans mon cœur. Lorsqu'on n'est plus dans la résistance, mais dans l'acceptation, alors la joie et la paix peuvent s'exprimer. Quand l'inspiration vient de notre petit moi ou du démon, la paix et la joie ne sont souvent qu'apparentes et éphémères. En résumé, une inspiration divine peut dans un premier temps nous troubler, mais dans la mesure où nous ne la refusons pas, mais nous y ouvrons et nous consentons, elle nous établit peu à peu dans la paix. Alors il y a des signes complémentaires encore, après les trois premiers que je viens de vous dire. Il y a la constance et l'humilité. Une caractéristique de l'impiration divine est la constance. Ce qui provient de notre psychisme ou du démon est instable et changeant. Nous ne sommes jamais satisfaits. C'est une sorte de yo-yo. Je veux, je ne veux plus. Le démon va nous pousser à faire ou acquérir des choses dans la précipitation, en nous faisant croire qu'elle est nécessaire, que nous ne pouvons pas la manquer, qu'elle est meilleure qu'une autre. Nous devenons des girouettes jamais satisfaites. L'important est de ne pas se précipiter sur une inspiration de manière à vérifier qu'elle ne s'évanouit pas après quelque temps. Si l'inspiration vient de Dieu et de l'Esprit, elle restera présente. Une autre caractéristique de l'inspiration divine est qu'elle imprime dans notre âme une profonde humilité. Nous sommes heureux de le faire ou de le suivre, mais sans gloriole, sans vanité, sans orgueil. Nous percevons que ce que nous allons faire ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu, et qu'à travers nous, c'est lui qui agit. Celui qui agit sous l'impulsion de son moi, ou bien l'impulsion du démon, va se mettre en évidence, va le faire savoir, et ne pourra accepter qu'on ne le reconnaisse pas. La volonté de Dieu est-elle toujours ce qui nous coûte le plus? C'est vrai que la volonté de Dieu semble aller en sens contraire de nos tendances immédiates, qui sont souvent des désirs de confort, de facilité ou de continuité de nos habitudes. Alors cela nous semble difficile de les modifier. Et le démon utilise ce penchant que nous avons pour nous décourager et nous éloigner de Dieu. Mais Dieu n'est pas un bourreau ou un sadique, mais un amoureux fou, qui veut nous donner son amour et nous faire croître dans l'amour. Il nous laisse libres. Il va nous inspirer des choses, de se mettre à son école pour grandir dans l'amour. La ruse de notre petit moi ou du démon est de nous faire croire que la vie sous la conduite de Dieu est étouffante ou trop exigeante. Le Christ a dit pourtant, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » La recette, finalement, c'est de faire ce qui nous est demandé avec amour. Au début, cela nous coûte car nous sommes sur la défensive, mais petit à petit, notre cœur se remplira de joie et de paix. La volonté de Dieu est de nous conduire là où il y a le maximum d'amour, pas le maximum de souffrance. Alors il peut y avoir aussi une différence de conduite à suivre selon l'importance des inspirations de l'Esprit. Les inspirations de l'Esprit Saint peuvent être de différentes importances. La conduite ne sera pas la même, justement, suivant l'objet de l'inspiration. Si l'inspiration vous demande de vendre tous vos biens et de partir au désert en ermite, ou bien d'aller prier 10 minutes en silence avant d'aller dormir, vous comprenez que le traitement et le discernement ne seront pas les mêmes. Parfois, plusieurs petites choses effectuées dans l'amour nous feront réaliser des progrès spirituels plus grands qu'une grande décision qui va nécessiter un profond bouleversement. Si je suis en colère contre quelqu'un et qu'une inspiration à pardonner monte en moi, suivre cette inspiration sera peut-être plus aisé à réaliser que tout abandonner et distribuer mes biens. Parfois, C'est le démon qui va nous tenter en nous déconseillant de faire quelque chose et de nous reposer. Sans l'inspiration divine, nos âmes auraient plutôt tendance à vivre paresseusement. L'inspiration vient nous réveiller, nous stimuler, mais jamais nous forcer. Il m'arrive parfois de rencontrer des difficultés pour venir à la liturgie le dimanche matin, parce que, ben oui, je suis préoccupé ou bien je suis de mauvaise humeur. Mais il y a toujours une petite voix qui me dit « Vas-y, cela te fera du bien ». Et chaque fois, je peux vous dire que lorsque je descends de l'autel à la fin de la liturgie, eh bien, je me sens régénéré, rempli de joie et plus dans la paix. Je crois que c'est un des miracles obtenus en se mettant à l'école du Saint-Esprit. Parfois, il peut arriver que nous pensions suivre une inspiration divine et nous nous rendons compte, après coup, que c'était notre petit moi qui nous poussait. Alors là, pas d'auto-flagellation. Posons-le devant le Seigneur, il ne nous en voudra pas pour autant. Que du contraire, si nous réalisons que nous avons fait fausse route, nous allons progresser sur le chemin spirituel. Plus l'inspiration est éloignée de notre mode de vie, et plus elle nécessitera de prendre le temps de discerner, de demander conseil à plusieurs personnes ou à son père ou sa mère spirituelle. Dieu préfère cette prudence à la précipitation, de façon à ce que notre oui soit un vrai oui. La précipitation est souvent une ruse du démon pour nous faire succomber. Un autre écueil à éviter est de multiplier les réflexions personnelles pour croire, discerner, de peser le pour et le contre, mais en étant son propre juge. Et que faire si nous ne sommes pas fidèles à la grâce? Il arrive que parfois nous ne voulons pas suivre les inspirations divines, et surtout au début. Cela peut générer en nous une peur ou bien une honte parce que nous n'avons pas été fidèles et que Dieu pourrait nous en vouloir. Alors ne rentrons pas dans le remords, mais dans le repentir. Dieu nous connaît. Il connaît nos faiblesses et nos difficultés. Saint Jean, dans sa première épître, dit « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Le Seigneur est miséricordieux et il trouvera le moyen de transformer nos égarements en bienfaits si nous nous tournons vers lui avec humilité et confiance. Si nous nous tournons vers lui avec la confiance audacieuse des enfants, il nous accueillera bras ouverts. Rappelez-vous la parabole du fils prodigue. C'est celle que nous allons entendre tout à l'heure à la liturgie. Et je voudrais terminer avec des paroles de la petite Thérèse. C'est un peu une histoire qu'elle raconte. Un père ayant deux fils espiègles et désobéissants, et que, allant pour les punir, il envoie un qui tremble et s'éloigne de lui avec terreur, ayant pourtant au fond du cœur le sentiment qu'il mérite d'être puni, et que son frère, au contraire, se jette dans les bras du père en disant qu'il regrette de lui avoir fait de la peine, qu'il l'aime et que pour le prouver, il sera sage désormais. Puis si cet enfant demande à son père de le punir avec un baiser, je ne crois pas que le cœur de l'heureux père puisse résister à la confiance filiale de son enfant, dont il connaît la sincérité et l'amour. Il n'ignore pas cependant que plus d'une fois, son fils retombera dans les mêmes fautes. Mais il est disposé à lui pardonner toujours, si toujours son fils le prend par le cœur. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Saint-Esprit à l'école du Saint-Esprit. Alors, je me suis inspiré dans les exposés que je vous ai faits de le livre « La quête du Saint-Esprit, de l'Esprit-Saint » de Graf Kowalewski, donc Monseigneur Jean, Saint Jean de Saint-Denis, de Saint Séraphin de Sarov, et puis d'un petit livre de Jacques Philippe à l'école de l'Esprit-Saint. Alors, si vous voulez approfondir, parce que moi j'ai fait ça en. Enfin, voilà, j'ai 20 pages finalement, où je vais résumer tout ce qui est dit, mais je vous conseille peut-être de les lire. C'est un beau travail à faire pendant le carême aussi.